le journal de la semaine sur France Inter avec vous Pierre Veil.
Oui Patricia, avec Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves.
Bonjour Pierre.
Et Laurent Geoffrin, le directeur de Libération. Bonjour Laurent.
Bonjour Pierre. Bonjour Patricia.
Bonjour Laurent.
Voilà.
Bonjour Yves.
Bonjour Patricia.
J'avais oublié, il faut se dire bien bonjour sur l'antenne.
Et d'abord, pour dire au revoir tout à l'heure.
Tout à fait. Et d'abord, Manuel Valls a à nouveau utilisé l'article 49.3 pour faire adopter le projet de loi Macron à l'Assemblée nationale. Colère des députés socialistes frondeurs. Pascal Cherki, député de Paris.
Le 49.3, en fin du débat, ça a signifié quoi pour les députés, les représentants de la nation cousine? Cause toujours. Donc ça veut dire ferme ta gueule. Et ben moi, je n'accepte pas que les représentants du peuple soient muselés. Je ne suis pas un représentant du MEDEF dans l'hémicycle. Je suis un représentant du peuple français et je suis un socialiste. Nous avons combattu le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy et aujourd'hui, nous inventerions le travailler plus pour gagner presque pareil de Manuel Valls. Je ne suis pas d'accord. Je ne l'accepte pas.
Laurent Geoffrin.
Je comprends pas bien cette polémique sur le 49.3 parce qu'il y a eu quand même combien? 200 heures de débat, non?
Oh non.
400 heures.
Oui.
Plus de 400 heures.
Alors, on peut pas dire que le Parlement était tenu à l'écart de cette affaire. Et par ailleurs, si on supprime le 49.3, ce qui est implicite dans la déclaration de ce député, on change les institutions. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'on redevient un régime parlementaire, essentiellement. C'est-à-dire que si le gouvernement n'arrive pas à faire passer un projet de loi à l'Assemblée, bah, le projet de loi ne passe pas, et puis éventuellement, le gouvernement tombe. Mais à ce moment-là, il faut dire, voilà, on veut plus de la Ve République, on veut revenir à une République parlementaire, ça peut se défendre. Mais si on accepte la Ve République, on accepte le 49.3, d'autant plus que, quand est-ce que cette loi Macron a été proposée? Il y a un an.
Ouais.
Donc ça fait un an qu'on discute quand même. Il y a eu un débat public national là-dessus.
Yves Tréhard.
Bah, Laurent me permet de rebondir en quelque sorte. J'irai au-delà de l'histoire de 49.3 qui est, c'est vrai, étonnante parce qu'il n'en avait pas besoin d'une certaine façon. C'est que la fabrique de la loi en France est malade. Je suis persuadé que la plupart des Français étaient persuadés que cette loi Macron était adoptée et qu'elle allait rentrer en application. Eh bien non. Un premier 49.3, un deuxième là maintenant, peut-être un troisième au début du mois de juillet, puisque déjà le Premier ministre l'a annoncé. Mais il y a un problème de la fabrique de la loi, avec des lois qui sont discutées, des projets qui sont discutés à n'en plus finir, où vraiment on cherche le moindre chose dans le moindre détail, ce qui aboutit d'ailleurs à des lois qui sont mal écrites, à des lois qui sont mal formulées et à des lois qui sont parfois inapplicables parce que justement elles sont ni faites ni à faire. Et ça c'est assez dommageable. Il faudrait considérablement revoir la façon dont on fait les lois en France.
Autre sujet, l'afflux de migrants en Europe. La proposition de la Commission européenne de répartir les demandeurs d'asile entre les pays de l'Union. Et jeudi soir, à l'Isle-Adam, Nicolas Sarkozy a fait une comparaison pour critiquer la Commission européenne.
C'est un peu, si vous voulez, comme une maison dans laquelle vous habiteriez. Il y a une canalisation qui explose. Elle se déverse dans la cuisine. Le réparateur arrive et vous dit « j'ai une solution ». On va garder la moitié pour la cuisine. On va en mettre un quart dans le salon. L'autre quart dans la chambre des parents. Et si ça ne suffit pas, on a en réserve la chambre des enfants.
Qu'en pensez-vous, Laurent Geoffrin?
S'il s'agit de filer une métaphore aquatique, je trouve qu'elle est mal choisie. L'eau, c'est celle dans laquelle ces gens-là se noient.
1800 morts.
Donc je trouve que, bon, je comprends qu'on fasse des blagues, mais il y a une limite, quoi. La comparaison de ces gens qui sont des hommes, quand même, des femmes honorables, quoi, avec une chose comme ça qui est une nuisance, ça veut tout dire. Ça veut dire tout étranger est suspect et nuisible, quoi. Donc c'est la philosophie contraire de tout ce que la France a pu dire ou a pu apporter au monde. Donc c'est un peu gênant. Et c'est l'effet d'ailleurs de cette idée selon laquelle il faut lutter contre la bien-pensance. Vous voyez, on dit toujours ça, la bien-pensance, le politiquement correct. Voilà ce que ça donne quand on va plus loin dans cette logique-là. Oui, il y a des choses qui ne se disent pas, quoi. Normalement, elles ne devraient pas se dire quand on est un ancien président de la République. Alors maintenant, bon, comme il faut lutter contre la bien-pensance, on fait des comparaisons comme ça qui sont honteuses, en fait.
Nombreuses réactions à gauche, hein, Yves Tréhard, phrases stigmatisantes, pas au niveau, pédagogie vulgaire, mauvais goût, l'ancien président fait des sketchs.
Oui, je prendrai sa défense parce qu'on a oublié que c'est un spécialiste du tout à l'égout. C'est lui qui a réglé le problème du tout à l'égout dans la maison de sa belle famille au Cap Nègre. Vous savez, il avait passé un été dans des réunions de copropriété.
Vous filez la même métaphore.
Pour ça. Non, plus sérieusement, si vous voulez. Bon, il a employé, mais il le sait pourtant, je pense, depuis qu'il est revenu en politique, une espèce de ton de chansonnier. À chaque fois qu'il fait un meeting, on a l'impression qu'il fait un tour de chansonnier.
Il fait des sketchs.
Il sait précisément l'effet que ça doit avoir. Et il parle pas évidemment aux Français, à tous les Français, il parle d'abord à son camp. Auprès de son camp, ça a l'air de marcher. Partout où il passe, il fait ça le comble. Il est un peu comme Raymond Devos, vous savez, dans son temps. Il a... Bon, au-delà de ça, sur le fond, il parle de quoi ? Il parle des quotas, évidemment, de la répartition des migrants dans les pays européens tels que la Commission européenne et le président de la Commission européenne, M. Juncker, veut les instituer ou souhaite les instituer. Et moi, je suis assez d'accord avec lui pour le coup. Je pense que les quotas, ce système de répartition, est une mauvaise idée. C'est pas comme ça qu'on réglera le problème, si on peut le régler, le problème des migrants. Je pense qu'on arrivera à le faire que si on change complètement nos politiques et l'Europe, la première, d'aide au développement et d'aide aux pays qui en ont besoin pour fixer ces populations sur place. Quant aux populations qui aujourd'hui, parce qu'il y a l'urgence, gérer l'urgence, c'est pas comme ça qu'on la gérera.
Mais je pense
on la gérera d'une autre façon, en essayant de prendre le mammouth, puisque c'est un véritable monstre mammouth, aux portes de l'Europe, et où il faudra être beaucoup plus vigilant, mais c'est certainement pas en construisant des centres d'accueil, parce qu'on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y en aura 5 000 la première année, 10 000 l'année suivante, et puis on arrivera à non plus, il y aura plus de faim.
Laurent Geoffrin?
Il faut rappeler que les gens qui viennent, pour moitié au moins, sont des réfugiés qui viennent de pays en guerre ou de pays dictatoriaux qui sont obligés de fuir pour leur sécurité. Ces gens-là ont le droit à l'accueil. C'est dans toutes les conventions qu'on a signées.
J'entends bien, mais
alors on peut les remettre en cause.
Qu'est-ce qu'on fait par rapport
Il faut leur donner un vague espoir.
Au président érythréen, par exemple. Il y a la Syrie. Le président érythréen, oui. Ça fait très longtemps qu'on aurait pu le faire, partir. De toute façon, on impose des sanctions à la Russie.
J'ai pas réfléchi à un plan d'attaque de l'Érythrée par la France.
J'ai pas parlé d'attaque militaire. J'ai parlé d'une espèce de politique qui souhaite une politique de sanctions vis-à-vis de ce monsieur qui et on n'en parle jamais. On dit il y a beaucoup d'Érythréens, mais pourquoi les Érythréens sont là? Parce qu'ils vivent sous la férule d'un homme qui était une véritable horreur.
Oui, enfin bon, les choses étant ce qu'elles sont, ces gens-là sont obligés de fuir et ils viennent vers l'Europe où il y a 600 millions d'habitants quand même. Enfin, bon, on peut pas tous les prendre, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'il faut pas instaurer une filière légale qui permette de donner un espoir à ces gens-là? Ce sont des gens éduqués souvent, ce sont des gens qui, en plus, si jamais la situation se rétablit dans leur pays, ils repartiront pour la plupart.
Mais vous savez que pour la plupart d'entre eux,
pourquoi ne pas leur donner un vague espoir? Qu'ils seront accueillis, à ce moment-là, ils prendront pas le moins de risques, ou pas le risque,
vous
de
savez
partir
comme moi,
sur des bateaux qui coulent
une fois sur deux. Vous savez comme moi que c'est très difficile, et les gens de l'OFPRA le savent aussi bien, c'est très difficile de faire la distinction entre un réfugié économique avec un réfugié politique, parce que ça demande des procédures de contrôle qui sont extrêmement tatillonnes, et heureusement,
et c'est compliqué. Beaucoup,
Dernier sujet, le pape François a exhorté jeudi les dirigeants du monde à agir vite pour sauver la planète menacée de destruction par le réchauffement climatique et le consumérisme. Il a publié une encyclique, 187 pages, un manifeste très politique contre l'égoïsme des nantis. Commentaire de Laurent Geoffrin dans Libération, je cite « Ce pape est sans doute le chef d'État le plus à gauche de la planète ». Yves Sriard.
Oui, mais on fait une erreur, Laurent a évidemment... écrit ça parce que c'est son regard, mais le regard qu'on pourrait avoir, c'est que l'Église, elle n'est ni de gauche ni de droite. L'Église, elle a toujours la main tendue. Et c'est ça qu'on comprend pas. On pense que l'Église, elle est nécessairement avec les gens nantis et tout, mais c'est faux. L'Église, elle a toujours, et je dirais que ce que dit le pape, pour avoir lu cette encyclique, qui est une encyclique sur laquelle on pourrait redire beaucoup de choses, par exemple quand il parle de décroissance, des choses comme ça, je ne veux pas me cacher, je suis quand même en désaccord avec ça. Mais il est assez fidèle quand même à cette parole d'éternité qu'est l'Église, c'est effectivement de faire en sorte que, eh bien, on aplanisse et que tout le monde trouve sa place. Et c'est normal qu'il ait cette parole-là, qu'il la rappelle. Alors évidemment, aujourd'hui, ça fait le jeu, d'une certaine façon, de pas mal d'écologistes.
Laurent Geoffrin ?
On vient de parler de la migration, des migrants. Le pape n'est pas sur la position de Yves Tréard, c'est moins qu'on puisse dire.
Non,
il est pour l'accueil. Lui,
vous avez remarqué que je suis
donc pas obligé. Donc il est plus à gauche que vous.
Oui.
Nettement plus à gauche.
Mais c'est possible.
Même presque plus à gauche que
ça
moi.
Ça ne me fait pas rougir.
Laurent Geoffrin, Yves Tréard, c'était le dernier journal de la semaine de cette saison. Merci d'avoir été avec nous sur France Inter.
Merci beaucoup.
On est bien accueillis, France Inter. Vous êtes
content. Oui.
Pour commenter, analyser.
Et donc on doit se retrouver.
Pareil. Réjouissez-vous.
Absolument. Patricia Martin, rendez-vous donc à la rentrée avec nos commentateurs. Et dans l'immédiat, vous recevez l'éditeur de Rue du Monde, une maison d'édition pour enfants.